Merci Madame Sorlane. Je donne la parole à Madame, à Monsieur Gomez. Je vous remercie Madame la Présidente. Je souhaite une très cordiale bienvenue à nouveau à la délégation équatorienne, mais aussi à tous ceux et celles qui nous suivent depuis la salle ou sur Internet. Alors, je vais aborder pour ma part la question 18 de la liste de points. Nous souhaitions avoir un complément d'information sur la situation dans les prisons, notamment suite à la mutinerie donc du 23 février 2021 qui a fait justement plus de 70 morts. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez donné effet aux observations finales donc du comité contre la torture qui déplorait le décès de 600 personnes entre 2018 et 2023. Pour l'année 2024, seulement d'après certains rapports, la crise humanitaire touchant les prisons équatoriennes aurait une incidence sur l'approvisionnement en eau, en alimentation, en médicaments et en autres besoins, en autres produits élémentaires. Dans l'une des prisons donc, du pays, suite à une mutinerie, 12 personnes ont trouvé la mort en juillet 2024. Dans la prison donc, du littoral, là encore, suite à une mutinerie, 8 personnes ont perdu la vie et de nombreuses personnes ont été blessées. Par ailleurs, le directeur du centre de réhabilitation sociale de l'une des provinces a été assassiné et un attentat s'est produit dans la prison du littoral donc de Guayaquil. La situation qui touche les prisons s'explique apparemment par l'infiltration d'agents du crime organisé dans les dites prisons. Nous aimerions essayer de savoir si vous avez tenté de comprendre ce qui sous-tend cette problématique pour adopter des solutions concrètes et idoines. D'après nos informations, le personnel pénitentiaire manque cruellement et ceux qui travaillent dans les prisons sont malheureusement rattrapés par les phénomènes de corruption. Aussi, nous aimerions savoir si vous avez adopté des mesures pour reprendre le contrôle du système pénitentiaire et si vous pouvez nous informer sur la compatibilité, s'il en est, des mesures que vous avez prises pour et le respect des droits des détenus. La résolution 41-111 Conseil des droits de l'homme, justement, évoquait cette problématique. Depuis le début de l'année, des cas de torture, de traitement cruel, inhumain et dégradant ont été recensés. Nous aimerions savoir s'il est possible de déposer plainte dans la plus totale confidentialité pour aborder les cas de violence entre co-détenus, mais aussi du fait de policiers et de gardiens dans les prisons. L'État parti s'est-il efforcé de mettre sur pied donc un mécanisme de contrôle et de suivi indépendant des conditions de détention afin d'éviter que des cas de torture ne soient signalés. J'en viens maintenant au point 20 qui porte sur l'indépendance du judiciaire. Le comité est vivement préoccupé par des informations selon lesquelles le crime organisé, là encore, aurait pénétré le système judiciaire dans votre pays. Des enquêtes auraient été diligentées d'après lesquelles des criminels auraient versé des pots de vin ou carrément payé donc des fonctionnaires publics pour que les décisions de justice aillent en leur faveur. Alors, par ailleurs, comme on le disait tout à l'heure, des agents du crime organisé auraient pénétré certaines prisons pour s'en emparer. Et nous aimerions avoir des informations sur le résultat des enquêtes diligentées autour de ces incidents et sur ce que vous mettez en place pour garantir une administration indépendante de la justice. Comment veillez-vous à ce que tous ceux qui enquêtent autour d'actes de corruption le fassent en toute indépendance et en toute transparence et intégrité? Par ailleurs, s'agissant donc des mesures pour éviter que les régimes disciplinaires ne fassent pas l'objet donc de décisions de justice, afin donc de ne pas mettre en péril le système judiciaire, eh bien vous ne nous avez pas répondu. Alors, je reviens à la charge. J'aimerais donc être au fait du régime disciplinaire proposé donc par le ministère public pour veiller à sanctionner les contrevenants tout en respectant l'indépendance du système judiciaire. Par ailleurs, les processus de sélection au sein donc de la des tribunaux nationaux sont assez préoccupants. Pourriez-vous faire état des mesures que vous avez prises pour veiller à ce que les procédures dites d'exception et de sélection, pardon, et de nomination des juges, mais ainsi que des membres du Conseil supérieur de la magistrature se fassent en toute objectivité et répondent aux compétences des candidats. Pourriez-vous nous expliquer concrètement comment vous avez géré donc la plainte déposée par Madame Veronica Davagno? J'en viens maintenant à la liberté d'expression. Dans votre réponse à la question 25, vous nous informez d'une série de législations qui touchent la liberté de la presse et des médias. Étant donné que vos dernières réponses datent de 2021, nous aimerions savoir en fait où en sont les projets et de lois examinés par la présidence équatorienne. Est-ce que ces projets ont fait l'objet de consultations avec les acteurs intéressés et la société civile? Quels sont le contenu de ces projets de loi et sont-ils conformes à l'article 19 de notre pacte? D'après certaines sources, en 2018, trois journalistes auraient été donc enlevés et assassinés par des membres du crime organisé. Par ailleurs, un peu plus tard, d'autres journalistes auraient aussi trouvé la mort dans des circonstances pour le moins troubles. Aussi, nous aimerions savoir si des enquêtes ont été diligentées autour de ces incidents et si oui, quels en ont été les résultats. Enfin, pour ce qui est maintenant de la protection et de la protection donc des journalistes dans leurs fonctions, avez-vous déployé suffisamment de ressources pour veiller à ce que les journalistes fassent correctement leur travail? Comment les institutions et la société civile apportent leur concours aux journalistes? D'après ce que nous avons compris,